Vous écoutez le www.rockick.com, station de radio internet. Wake up le show. Au bout du fil, nous avons Marc Fivet qui est ici. Et on va lui demander, première des choses, comment il va, Marc? Enchanté de vous connaître.
Eh bien, enchanté également. Comment je vais? Eh bien, je vais bien. Je me remets de mes longues années d'incarcération.
Exact.
Que j'ai dû assumer après avoir travaillé pour les autorités douanières françaises.
Comptez-nous exactement votre histoire. Comment vous êtes tombé dans ce système-là? Qu'est-ce qui vous a amené là exactement? Parlez-nous de tout ça.
Bon, qu'est-ce qui m'a amené là? J'étais en stand-by dans un port du sud de l'Europe. Pour ne pas le nommer, c'était Gibraltar. Et je vivais sur un bateau. Et les autorités françaises m'ont ciblé et ont estimé que je présentais le bon profil pour éventuellement pouvoir infiltrer des réseaux mafieux, des organisations criminelles, et en particulier des organisations qui faisaient du narcotrafic.
Ok. Avoir le bon profil, Marc Fivet, expliquez-nous, ça peut ressembler à quoi le profil?
Ben, le profil, je pense que c'est quelqu'un, d'une part, qui n'est pas trop jeune, ça c'est le premier point, qui peut inspirer confiance, ça c'est le deuxième point.
D'accord.
Qui maîtrise au minimum, une langue, voire deux langues étrangères, c'est quand même également important, qui est capable de piloter, s'il le faut, un avion, qui est capable de prendre un bateau et de faire le skipper, et qui a l'entregent nécessaire pour éventuellement monter des compagnies, rencontrer des banquiers et faire, j'allais dire, tout ce que peuvent nécessiter les organisations criminelles, qui ont quand même une part apparente, à savoir que tout ne se passe pas. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont souterraines, mais il y a quand même une activité qui est une activité légale, et pour ça ils ont besoin d'individus qui peuvent éventuellement à leur place agir. Donc
okay.
On a estimé, quand je dis on a estimé, ce sont les autorités françaises qui m'ont, comme on dit dans le jargon, qui m'ont tamponné et qui m'ont recruté pour me demander d'infiltrer des organisations mafieuses.
D'accord. Est-ce qu'on peut comparer votre histoire à un Kafka, si on veut, d'une certaine façon?
À quoi?
À un Kafka.
Oh, Kafka, Alex, j'allais dire c'est de la petite bière à côté. Parce que
okay.
Bon, c'est dans le texte, Kafka.
Oui, oui.
Tandis que moi, c'est dans la réalité.
C'est dans la réalité.
Je me suis heurté à tout un système et à toute une rigueur juridico-administrative et en plus internationale, avec des intérêts de différents services qui ont fait qu'on a écarté totalement tout le côté humain pour privilégier des réussites d'opérations. Et j'ai été lamentablement, de toute façon, oublié, lâché par les autorités françaises.
Oublié? Mais pourquoi?
Oublié parce que lorsque je suis rentré en France, après déjà plusieurs années passées dans les prisons espagnoles, anglaises et canadiennes,
oui.
En particulier à Renous, à Spring Hill, etc., lorsque je suis rentré en France, je pensais être libéré, puisque c'était le deal, entre guillemets, des autorités qui étaient venues me rencontrer dans mon pénitencier de Renous pour me dire de plaider coupable et surtout de ne pas embêter les autorités douanières et les autorités juridiques et la gendarmerie royale en expliquant qui j'étais réellement. Donc j'ai plaidé coupable à l'époque avec la garantie que lorsque je rentrais en France, je serais libéré dans les 2-3-6 mois au plus tard. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, jusqu'à un certain niveau de la hiérarchie douanière, on ne va pas oublier, mais au-dessus, c'est-à-dire la direction générale des douanes, qui était la seule qui pouvait éventuellement exiger et imposer qu'on prenne en compte ma situation, la direction avait changé, et le nouveau directeur général m'a carrément, en fin de compte, passé par perte de profit en disant qu'il n'avait pas assumé les décisions, les engagements pris par ses prédécesseurs. C'est pour ça que je dis que j'ai été oublié.
Vous avez embarqué dans, est-ce que je peux dire, dans ce jeu-là, vous, Marc, est-ce que je peux dire que vous avez embarqué dans ce jeu-là? Mais
c'est le terme exact, parce que Moi, toujours, lorsque je montais une opération, lorsque j'infiltrais un réseau,
oui.
je disais à mon officier traitant, le jeu va consister à avoir telle attitude, à faire telle chose, etc. Effectivement, c'était un jeu de rôle.
Voilà. Est-ce que la hiérarchie, la fameuse hiérarchie dans l'administration française, est-ce que c'est vrai qu'elle ne défend jamais, jamais les agents?
Alors ça, c'est une constante que je ne connaissais pas, parce qu'effectivement, si je l'avais su, j'aurais exigé que l'on me fonctionnarise, parce qu'à l'époque, je rencontrais régulièrement le ministre qui était en charge des douanes,
oui,
et de la lutte anti-drogue.
C'était qui?
C'était Michel Charras à l'époque. Hein.
Ok.
Et ce ministre des Finances, j'allais dire, avait dit, bon, on va pas vous fonctionnariser, on va pas vous transformer en employé de l'État, parce que sinon, ce serait ridicule, vous êtes infiltré avec votre véritable identité, on va pas maintenant vous embaucher. Donc, on vous laisse en freelance. Et me laissant en freelance, eh bien, ils m'ont purement et simplement, j'allais dire, passé par pertes et profits, allant jusqu'à, dans les premiers temps, maintenant j'ai eu gain de cause en France, à savoir que j'ai eu une décision de justice qui m'a blanchi, à savoir qui a reconnu que j'étais un agent infiltré, que je travaillais bien pour les douanes françaises, au moment où j'étais arrêté par les autorités canadiennes. Ça j'ai cette décision de justice, mais c'est pas pour autant, en fin de compte, que les autorités françaises à l'époque n'ont pas éventuellement était prête même à dire que j'étais un narcotrafiquant. Et ça, c'est inacceptable.
Vous n'en êtes pas un. Vous n'en êtes pas un.
Et je n'en suis pas un. Voilà. Non, parce que moi, quand j'ai été recruté, je n'avais rien à voir ni de loin ni de près avec le monde criminel. Je ne connaissais pas le monde criminel. Je n'étais pas issu du monde criminel. J'étais issu du privé, d'entreprise. Et j'ai infiltré ce monde que j'ai commencé à fréquenter sur ordre et sur volonté politique d'un ministre qui donnait l'impression aux Français de vouloir lutter contre le narcotrafic.
Marc Fivet, qu'est-ce que nos hommes politiques ont à cacher?
Eh bien, écoutez, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette histoire, bon, non seulement c'est un parcours apocalyptique plus que kafkaïen.
Oui, oui.
Je parle de la carcérale, je parle du système judiciaire, je parle de ce que l'on m'a fait subir.
C'est juste.
Mais ce qu'il y a de dramatique, c'est que après 4 ans et demi d'enquête, puisque j'ai porté plainte il y a 5 ans, moi, pour savoir exactement, donc, il y a eu un juge d'instruction en France qui a instruit une plainte, qui a instruit et qui a envoyé des commissions rogatoires, qui a envoyé des inspecteurs d'inspecteurs de la police judiciaire enquêter, poser des questions, etc., etc. On a eu des résultats importants, mais on n'a pas pu tout savoir, parce que mon dossier continue à être classé secret défense, à savoir que l'on ne peut pas obtenir mon dossier auprès de la Direction Générale des Douanes, qui l'a classé secret défense. Et ça, c'est particulièrement inadmissible, parce que je pense que vous, comme moi, vous pour, l'État fédéral canadien, comme moi pour la France,
vous,
oui, pensez que le secret d'État peut éventuellement être amené à couvrir les intérêts supérieurs de votre nation comme de la mienne? Eh bien non, le secret défense, ça couvre les magouilles éventuellement d'hommes politiques qui ont pris des bacchiches ou qui ont pris des pots de vin, ou ça vient pour couvrir éventuellement des administrations qui n'ont pas été dans les clous et qui n'ont pas respecté les textes. Alors, moi, je dis que sacrifier un mec, et le mec, c'est moi en particulier, et continuer à refuser de lever le voile sur mon activité, qui a été particulièrement exceptionnelle au point de vue productivité, je trouve ça particulièrement inacceptable.
Marc Fivet, est-ce que vous êtes encore dans le coup?
Oh ben, je pense que je suis encore dans le coup, au niveau de la connaissance des circuits, parce que je ne suis plus impliqué après 11 ans de détention à travers le monde.
Faites attention, vous avez eu une hésitation ici, là. Faites attention.
je ne suis plus impliqué,
okay,
autrement que par les news, que par les informations que je que je capte et que je mets en ligne, puisque j'ai plusieurs sites qui font de l'information uniquement sur le narcotrafic.
Lesquels, Marc Fivet?
Alors, j'ai un site qui s'appelle L'Aviseur International, qui est, lui, de la news internationale et générale, et j'ai en particulier des sites qui s'appellent Custom Cyber Info, qui s'appellent Infodouane, et qui s'appellent Narcotrafic Info, qui ne donne que des informations concernant le narcotrafic, mais aussi bien ce qui se passe au Canada, bien sûr, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en France, qu'en Espagne, qu'en Italie, qu'en Colombie, qu'au Venezuela, qu'aux USA, partout. Hein. Tout ce qu'il y a comme news sur cette planète traitant du sujet narcotrafic, héroïne, cocaïne, cannabis, amphétamine, bon, je le mets en ligne pour mettre à disposition des gens qui sont chargés de faire des enquêtes, je veux dire, un répertoire et une bibliothèque importante.
Est-ce que vous, dans ce job-là, vous étiez obligé ou enfin, pour entrer vraiment dans le rôle à 100% pour attraper ces gens-là, est-ce que vous étiez obligé de consommer certaines drogues?
Jamais. Je n'ai jamais eu à consommer quoi que ce soit, puisque moi, je me suis toujours cantonné. D'une part, je n'avais pas de connaissance des circuits de distribution.
Ok.
Bon, je n'avais pas de connaissance des circuits de fabrication ou des circuits agricoles, de la culture des produits. Donc, je n'étais qu'un transporteur et à ce titre, je ne fréquentais pas tout ce monde interlope de la nuit, du business, etc. Moi, j'étais un transporteur. Et à ce titre, je me cantonnais dans mon rôle de transporteur, donc je ne fréquentais quasiment pas le monde interlope du narcotrafic, si ce n'est que les gens qui m'employaient et qui louaient mes bateaux pour transporter de la drogue.
Les gens qui vous employaient, c'est une question très superficielle, Monsieur Fivet, que je vais vous poser là. Est-ce que c'était payant?
Alors, ça n'était jamais payant. Si ce n'est que ça me permettait, bien sûr, d'assumer des frais inhérents à la mise en œuvre d'un transport. À savoir que personne ne paye d'avance un transport.
Non, exact. Hein,
on vous donne une avance pour frais, à savoir que si vous avez, je vais dire, 10 000 dollars de frais de fuel, de frais hôteliers et de frais pour remplir l'insérateur de bord, bien, on vous fait l'avance de ces frais, ce qui me semble tout à fait logique de les exiger, mais étant donné que la plupart des opérations tombaient, c'est-à-dire qu'elles étaient saisies, eh bien, il n'y avait pas de rémunération ni de rentabilité.
Vous étiez considéré comme un des meilleurs agents doubles, Marc Fivet, mais sur quel pied, enfin, sur quel point on pouvait dire que vous étiez un agent double exemplaire? Dites-moi.
Ah ben, moi j'étais un agent double exemplaire dans le sens où d'une part je n'ai pas croqué. Croqué ça veut dire en langage franco-français, hein.
Oui.
C'est-à-dire que je n'ai pas pris d'argent du narcotrafic.
Ok.
Je ne me suis pas enrichi avec le narcotrafic et je n'ai pas fait de profit de l'argent de la drogue. Alors c'est pour ça que je dis que je suis un agent exemplaire, parce que je connais beaucoup de gens qui, bien que n'étant pas narcotrafiquants, ont pris, prennent et prendront encore de l'argent du narcotrafic en fermant les yeux.
Avez-vous des noms?
Oh ben écoutez, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Dans la peau d'un narco » qui vient de sortir chez Hugo Doc en France, qui je pense va être distribué chez vous par ADP. Qui donne tous les noms. Alors là, il n'y a pas de problème, ce sont les vrais noms, il n'y a absolument pas d'équivoque. Hein.
Oh, parfait, c'est sûr que je vais aller m'en chercher une copie. Monsieur Fivet, ben moi, je veux savoir, je suis un être curieux. Et autre chose, les 10 ans que vous avez passés, c'est bien en tôle, vous avez fait 10 ans en prison. Là.
J'ai fait 11 ans en prison, j'ai fait 16 mois en Espagne, 16 mois en Angleterre.
Ok.
On est venu me chercher par jet privé de la RCMP. Pour me ramener à Bathurst, enfin on s'est posé à Charlot Airport.
Okay.
Et puis après je suis revenu en France croyant être libéré, et puis j'ai pas été libéré, c'est tout.
Comment ça?
Donc j'ai fait réellement 11 ans de pénitencier dans des conditions particulièrement déplorables, puisque plutôt que de me laisser au Canada où j'aurais été libéré en 2004 définitivement, on m'a ramené en France où je n'ai été libéré qu'en 2005 en me battant et en faisant d'innombrables crèves de la faim. Okay. Donc, et dans des conditions pénitentes, des conditions de détention qui n'ont rien à voir avec les conditions de détention qui sont offertes en fin de compte au Canada.
Exactement, c'est ça, parlez-moi-en. Vous êtes un agent, un ex-agent double, vous êtes en prison, selon l'endroit, bien sûr, là, au niveau du nombre de mois que vous avez passé par endroit. Est-ce que vous avez une garde rapprochée? Est-ce qu'on vous met dans un endroit pour pas non plus que vous soyez assailli par d'autres prisonniers? Parce qu'on ne sait jamais.
Ils vont
peut-être découvrir qui vous êtes réellement.
Non. Donc, tant que j'ai été dans mon périple étranger,
oui.
lorsque je suis arrivé... Bon, j'étais un narco, puisque j'ai été arrêté dans une organisation qui faisait... C'était l'opération Dinero de la DEA.
OK.
Bon. Donc, j'ai été arrêté comme transporteur, donc pour toutes les... Tous les détenus, j'étais considéré comme un narco. Et j'ai pas dit que je n'étais pas un narco, bien sûr. Donc j'ai eu, en Espagne, une attitude normale et un comportement normal de la part des autres détenus. En Angleterre, pareil. Quand je suis arrivé au Canada, quand je suis arrivé à Renous et qu'on m'a mis en vie normale, c'est-à-dire que partageant une activité relationnel normal avec d'autres détenus, j'ai eu des gens, des Hells Angels qui sont venus se mettre à ma disposition parce qu'ils m'avaient vu arriver, ils avaient vu les reportages à la télé et ils se sont dit, celui-là c'est un des patrons du narcotrafic.
Oh.
Donc on est venu me protéger, mais pas me
incroyable.
Protéger parce que j'étais un agent double, me protéger
parce
éventuellement d'un environnement qui aurait pu m'emmerder pour me demander de l'argent, me racketter ou autre chose, quoi, voilà.
Alors, on vous a pas mené la vie dure
au Canada, on m'a pas mené la vie dure, c'est seulement en France. Quand je suis rentré en France, pour moi, je ne pensais pas être obligé de faire ce qu'on appelle un coming out, à savoir de révéler qui on est, réellement. Je pensais que les autorités feraient le nécessaire pour que je sorte sans avoir à révéler qui je suis. Mais j'ai été obligé de le révéler, et à partir de ce moment-là, effectivement, ça a été l'enfer, puisque j'étais considéré comme soit de temps en temps, soit comme un flic, soit comme un agent infiltré, soit comme une barbouze, soit comme un undercover, mais certainement pas, en fin de compte, comme un détenu que d'autres détenus respectaient, puisque je ne faisais pas partie de leur monde.
Marc Fivet, dites-moi, est-ce que vous en voulez énormément au gouvernement?
J'en veux énormément, pas au gouvernement,
okay.
J'en veux énormément aux hommes qui n'ont pas pris les bonnes décisions et qui s'en sont lavé les mains. Vous savez, les gouvernements, on peut leur faire faire n'importe quoi et on peut les taxer de n'importe quoi,
mais
c'est avant tout une question d'hommes.
Mais à la base, ce gouvernement aurait peut-être pu justement regarder un peu plus ce qui se passait par rapport à votre situation et empêcher...
Ah oui, c'est certain, ce gouvernement pouvait peut-être s'intéresser d'un peu plus près à cette situation, mais le gouvernement, de toute façon, comme de la plupart des politiques sur notre planète, ne sont absolument pas intéressés par ce genre de problématiques, partant du postulat que, de toute façon, ils font une confiance absolue et à leurs services régaliens et à leur justice. Donc, de toute façon, si vous êtes considéré, et en plus, si vous plaidez coupable, puisque moi, on est venu me dire de plaider coupable, et surtout de ne pas embêter... Enfin, on m'a dit, tu fais pas chier les autorités canadiennes. Bon, on est venu me dire ça à 8h du soir à Renous. J'ai eu trois hauts fonctionnaires français qui venaient, l'un de France, l'autre de Washington, mais le consul général de France, qui sont venus me dire, à 8h du soir, tu plaides coupable, c'est la seule solution, t'emmerdes pas les autorités canadiennes.
Mais vous croyez pas qu'il était au courant, ou sûrement qu'il avait au moins eu deux mots de cette affaire?
Ah, mais les Canadiens étaient au courant, sauf que le procureur n'était pas
exact.
Au courant, et que le juge qui m'a sentencé n'était pas au courant. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait toutes les démarches possibles et imaginables auprès d'Ottawa pour réouvrir mon procès, et on m'a répondu une longue bafouille de 14 pages, me disant, en conclusion, si vous avez joué le jeu des autorités françaises et accepté de plaider coupable parce que vous travaillez pour les autorités françaises, c'est votre problème, vous avez plaidé coupable, donc vous êtes coupable. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de fous furieux. Et lorsque je dis, j'ai une décision de justice en France, à Ottawa, le mec, il rigole, il se fout de moi. Il dit, mais de toute façon, ça, c'est en France. Pour nous ici, vous êtes à l'arco. Bon, c'est tout.
OK. Par exemple, à Ottawa, M. Fivet, qui on pourrait nommer qui vraiment se fout de votre gueule en ce moment, là?
Ah, oh, ben écoutez, ça a changé, hein.
Ouais, c'est sûr que ça a changé. Mais qui était...
Les noms ont changé. Quand je dis se foutent de moi, c'est-à-dire que de toute façon, ils savent très bien qu'ils n'ont pas, eux, la possibilité de faire quelque chose.
OK.
Je suis arrivé trop tard pour faire appel. J'ai pas fait appel de la décision. J'ai demandé, et j'ai penser qu'en fin de compte, avec les décisions qu'il y avait eu en France, les décisions de justice me blanchissant, j'aurais la possibilité, l'opportunité de réouvrir mon dossier au Canada. Eh bien non, ça n'est pas possible. C'est tout.
C'est impossible.
Alors, moi, je trouve ça quand même assez fort de café, parce que en France, à Paris, on ne me considère pas comme un narco, on dit non, Monsieur Fievé n'est pas un narcotrafiquant, Monsieur Fievé était un agent infiltré, et il travaillait pour le compte des autorités françaises, mais c'est pas ce qui intéresse de toute façon la justice canadienne, et en particulier la gendarmerie royale canadienne. Pour eux, de toute façon, ils m'ont classifié comme narco, point final.
Alors il n'y a aucune possibilité pour vous d'être
Pour l'instant, je cherche, j'écris, je fais beaucoup de télévision, de radio, j'interpelle beaucoup, mais je pense que tant qu'il n'y aura pas un homme politique qui prendra en compte cette situation quand même assez exceptionnelle, je ne pense pas que ce soit les fonctionnaires, en quelque sorte, qui trouveront le courage de prendre une décision de réouvrir ce dossier.
Mais de vous entendre comme ça une fois ou deux semaines sur nos ondes, histoire de dénoncer la chose, ce serait quand même intéressant, M. Fivet.
Ah ben, ce serait super intéressant, ça, je suis d'accord avec vous.
Ben, moi,
vous savez, c'est pas facile, hein.
Non,
c'est
je
pas
sais.
Facile, c'est pas facile de provoquer une réaction parce que c'est tellement, en fin de compte, banal. Les erreurs judiciaires, vous savez, je suis pas la seule. Surtout d'autant plus que j'ai plaidé coupable. Faut pas l'oublier.
Oui,
moi, on est venu me dire, tu plaides coupable, tu fais pas chier le monde. Bon, moi, j'étais un agent infiltré, j'ai obéi les ordres qu'on m'a donnés, pensant que... Mais j'ai dû réagir, j'ai dû révéler ma réelle qualité quand j'ai vu que je partais pour 20 ans en prison et que je n'allais jamais sortir. Alors là, effectivement, j'ai été obligé de révéler et de demander l'aide des médias. Et j'ai eu la chance de tomber sur une chaîne de radio et sur une émission en particulier en France qui s'appelle Pièce à conviction.
Pièce à conviction, oui.
Ouais, qui pendant 4 ans, tous les ans, a remis le couvert. Tous les ans, ils ont matraqué. Et ils ont fait des reportages lourds en disant il y a quelque chose qui va pas, là. Mais c'est pas pour autant que les politiques ont bougé, parce que les politiques, ça bouge pas. Les politiques, c'est bon pour les grands travaux en projet, pour pouvoir récupérer un petit peu de pourcentage.
Mais vous êtes d'accord avec moi, M. Fivet, que c'est à répétition qu'on réussit à avoir quelque chose.
Je suis d'accord avec vous.
Si on le fait
totalement.
Oui, si on le fait plus d'une fois, on risque peut-être de faire bouger les choses.
Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pour l'instant, moi, j'ai demandé plusieurs fois, d'une part, d'être interviewé alors que j'étais encore en détention. Avec une vidéoconférence. Les autorités françaises ont refusé qu'il y ait une vidéoconférence qui s'établisse, parce qu'à l'époque, le Canada était d'accord pour m'entendre. Ensuite, okay. Il a fallu faire une déclaration devant notaire, j'ai fait venir un notaire, on a fait une déclaration, j'ai fait toute la procédure, vous savez, possible, j'ai respecté les textes, j'ai respecté, en fin de compte, la législation canadienne, pour finir par me heurter à une décision qui m'a dit, de toute façon, c'est trop tard. Deuxièmement, vous avez plaidé coupable, vous n'avez pas fait appel, et alors, sublime de sublime, aujourd'hui on me dit, de toute façon, nous savions parfaitement qui vous étiez, mais c'est faux, le juge qui m'a sentencé à perpétuité ne savait pas qui j'étais. Il ne le savait pas, le procureur qui me poursuivait ne le savait pas non plus, puisque les gendarmes qui m'ont interviewé juste avant de passer devant le juge m'ont demandé de ne pas faire état de ma qualité. Alors, faut pas exagérer. Alors que maintenant, on me dit, il savait. Non, il savait pas. Il a sentencé un mec qui était un agent infiltré. Point. Et c'est là où je dis que c'est inacceptable.
Manipulation, alors, c'est ça.
Comment ?
De la manipulation.
C'est de la manipulation de A jusqu'à Z. Alors, comprenez que, effectivement, c'est facile quand on vient me dire, oui, tu comprends, agent infiltré, il y aura entrapement, il n'y a plus d'opération, il faudra rendre le bateau, il faudra rendre tout ce qui a été saisi, on mettra dehors tout le monde, etc. Mais je peux comprendre ça, moi je suis dans le camp de ceux qui luttent contre le narcotrafic. Mais de là à m'assimiler à un narcotrafiquant et à me faire subir des peines de détention supérieures à tous ceux qui ont été arrêtés dans cette opération, je trouve ça inacceptable. Inacceptable. Et ça vient, en fin de compte, d'une lâcheté institutionnelle, d'une lâcheté administrative. Alors, je n'incrimine pas, bien sûr que je n'incrimine pas les Canadiens. Ils ont fait une belle opération. Ils ont fait une belle affaire. Ils pensaient, parce que ils m'ont permis de rentrer en France très rapidement. Je suis resté un an au Canada.
Ok.
Donc, ils m'ont renvoyé pensant que les Français allaient solutionner ma situation. Mais les Français n'ont rien fait. C'est tout.
Hé, hey, des lâches.
Plus que ça.
Oh.
Des couards.
Oh.
Des couards. Vous savez ce que c'est qu'un couard?
Non, mais dites-nous-le. Allez.
La couardise. La couardise, c'est la lâcheté, bien sûr, c'est ce que vous dites, des lâches, des couards, quoi.
Oui, voilà, exact.
Des gens, en fin de compte, qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est avoir une carrière et un parcours exemplaire dans leur activité, mais qui se foutent royalement, éventuellement, des dommages collatéraux, parce que c'est pas leur problème, et puis parce qu'éventuellement, il faudrait s'engager, il faudrait, en fin de compte, mettre sa virilité sur la table. Et ça, c'est très difficile, aujourd'hui. Mmh. Dans le monde de la fonction publique. Il n'y a plus personne qui prend de décision. On ne sait plus qui fait quoi, ni qui décide quoi. Bon, ben, je suis tombé dans une mauvaise période, quoi.
On nous mentionne, via nos auditeurs qui nous envoient des messages, eux appelleraient ça des enculés plus directement.
Ah, mais je pense que le terme, je ne l'utilise pas.
Non. Je vous demande pas de l'employer, M. Fivet.
Non, mais je ne l'emploie pas. Mais je pense qu'on peut dire que ce sont des sodomites, quoi. C'est plus aimable.
Tout à fait. Non, mais c'est surtout plus politically correct.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, parce que je veux pas agresser, je veux pas être...
Non.
Mais je pense que réellement, au moment où j'ai travaillé pour les autorités françaises, j'avais affaire à des gens qui étaient couillus. C'est un terme
oui.
que tout le monde comprend.
Très bien.
Et lorsque toute cette histoire, j'allais dire, s'est passée, j'ai eu affaire à des gens, on va pas commencer à les taxer et avoir des mots blessants, mais qui manquaient de virilité et qui manquaient, en fin de compte, de capacité pour prendre le taureau par les cornes. Et je repense toujours à Jean Chrétien, un de vos ministres, qui disait un jour, en parlant, en fin de compte, des textes de loi, « Fuck the legal way, use the human way ». Et c'est bien vrai, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui ose utiliser le chemin humain pour solutionner. Et ça, on l'a vu dans ma situation, mais on le voit partout, de toute façon.
Monsieur Fivet, est-ce que aujourd'hui, en ce 6 février 2007, il est 11h37 minutes de votre côté, il est 17h38 presque, ou enfin, si ce n'est déjà pas le cas, est-ce que les gens qui vous ont engagé travaillent encore dans le milieu?
Alors, les gens qui m'ont engagé, à savoir les autorités françaises?
Oui.
Les autorités françaises, alors pour la plupart, certains bien sûr sont maintenant à la retraite. Il y en a encore quelques-uns qui travaillent dans les services ou qui sont partis, ce qu'on appelle pantouflés, dans des grands services qui permettent d'avoir un peu plus d'argent. Mais il y a quasiment plus personne. Il y a quasiment plus personne. Tous les nouveaux interlocuteurs que je pourrais avoir... ou refuse de s'intéresser à mon affaire parce qu'elle dérange, mais on a entendu parler, mais je ne les connais plus, c'est-à-dire que je n'ai plus le relationnel que j'avais avec les autres.
Ok. Est-ce qu'ils ont eu des...
Parce que, je veux dire qu'il y a 18 ans depuis que j'étais embauché par les douanes, il y a 19 ans.
Est-ce qu'ils ont eu des peines, ou absolument rien?
Ah, ils n'ont rien eu du tout. Ils n'ont rien eu du tout, vous savez. Moi, je dis toujours, est-ce qu'il y a d'extraordinaire, lorsque j'étais au Canada, est arrivé celui que les Canadiens, que les autorités, que la gendarmerie royale considéraient comme le numéro 3 de cette organisation, qui s'appelait Carlos Hernandez Rambo. Il est arrivé, il avait été soi-disant arrêté en Suisse. Il est arrivé, lui, il était bourré de pognon. Il a pris un avocat, il a plaidé non coupable, il a été relaxé alors qu'il y avait des photos, il y avait des enregistrements. Il est rentré chez lui sans rien, il est resté seulement un an et demi, il a été relaxé, ça lui a coûté 300 000 $.
Putain de merde. Excusez-moi.
Le numéro 1 de l'organisation Locatelli n'a jamais été poursuivi. Jamais été poursuivi. Alors vous comprenez bien que pour moi ça me fait quand même un petit peu drôle. Et la famille Di Vito, Effectivement, ils ont été arrêtés, mais ils ont pris des peines entre 5 et 15 ans.
C'est ça.
Ils n'ont pas pris des perpètes. Et au bout de quelques années, on les a sortis en conditionnel parce que, ça se fait rapidement. Moi, on m'a laissé crever en tôle. Et c'est pour ça que je dis que c'est inacceptable. Inacceptable. Et croyez-moi, on m'a fait la totale. C'est-à-dire qu'on m'a baluchonné de cellule en cellule et de pénitencier en pénitencier. J'ai fait 23 prisons, 392 cellules. Parce que j'étais considéré comme un élément réactif, subversif, parce que je refusais cette condamnation que j'estimais totalement aberrante. Alors bon, il y a de quoi s'emporter, mais bon, ça sert à rien. Il faut rester calme, il faut essayer de faire savoir, il faut essayer que les gens puissent apprendre cette histoire, parce que c'est quand même exemplaire de la lâcheté institutionnelle et de l'utilisation de la manipulation que font les services avec des gens qui les servent. C'est tout.
Marc Fivet, L'Aviseur, justement, qui est édité chez Michel Lafon, est-ce qu'on va l'obtenir bientôt au Canada? J'imagine que oui, si ce n'est pas déjà fait de notre côté.
Ben, je pense que ce n'est pas possible, parce que lorsque je l'ai sorti, j'étais incarcéré, il n'a pas été réédité, et il ne sera pas réédité. Peut-être va-t-il ressortir le jour où, actuellement, il y a un projet cinématographique important, qui devrait, en fin de compte, raconter cette histoire, parce que c'est tellement une histoire de fous furieux, et en même temps, j'allais dire, de résultats extraordinaires au niveau de la lutte contre le narcotrafic. Donc il va y avoir un long métrage qui devrait, et à ce moment-là, je pense que L'Aviseur va ressortir, mais vous savez, le monde de l'édition, c'est un monde à part, c'est parfois difficile de comprendre pourquoi il ne ressort pas un bouquin. Quand je suis sorti de prison, quand j'étais libéré en conditionnel, je pensais qu'il allait ressortir, mais il n'est pas ressorti.
Monsieur Fivet, j'aimerais vous dire merci ce matin, enfin cet après-midi pour vous, d'être venu discuter sur les ondes du www.rockick.com, Wake Up le Show. Oui. Ce fut un plaisir. J'espère que nous aurons l'occasion de pouvoir répéter l'expérience. Comme je vous disais, je vous envoie un courriel une fois ou deux semaines, une fois ou trois semaines, le sujet de votre choix qui est en lien avec ce que vous savez, votre savoir-faire, quoi. Ce serait très intéressant de vous réentendre à nouveau, histoire de peut-être faire changer les choses dans votre sens.
D'accord. Monsieur. Eh bien, je vous remercie. Si vous avez l'occasion, achetez donc Dans la peau d'un narco, infiltré dans la mafia. Il y a tous les noms, il y a des faits précis, et c'est que du réel, c'est que du vécu, c'est pas du tout une histoire, c'est pas un roman. Hein.
Dites-moi, Monsieur Fivet, est-ce qu'il y aurait un lien Internet possible pour qu'on puisse voir le livre en question? Comme ça, nous pourrions l'installer sur notre site, histoire que les gens...
Écoutez, il est sur le site www.marcfivet.com.
Parfait, nous allons l'installer sur le site de Kickassling, bien sûr, si vous acceptez.
Alors, si vous avez la possibilité, vous m'envoyez un email avec le lien pour aller sur votre site?
Tout à fait, monsieur.
Ok.
Ça me fera plaisir, je vous envoie cela.
Je vous remercie.
Une bonne journée, ou enfin une bonne fin de journée. Merci, merci, monsieur
merci.
Fivet. Au revoir. Alors, c'était Marc Fivet, passé quand même assez hardcore, comme vous avez entendu. Je pense qu'on n'en entend pas souvent de ce genre-là. C'était assez extrême. On aura la chance de le réentendre, comme je viens de le faire, bien sûr, sur les ondes. On lui a proposé quelque chose, il accepte volontiers. Et on verra, on va essayer de développer quelque chose d'intéressant avec Marc Fivet, qui est un ancien agent des stupes, des trafics des narcotiques. Alors, on s'arrête un petit instant, on parle avec Christian dans moins d'une minute, pas plus que ça, 1 minute 30, et on fait les sports.
Rockick.com, allez écouter ça, quelqu'un. Puis venez m'en parler, s'il vous plaît.
Un autre moment historique du 400.